Bienvenue à la série de podcasts « Propulser votre équipe » d'O2 Coaching, avec votre hôte, Chloé Caron, fondatrice et présidente d'O2 Coaching. En tant que coach exécutive, auteure, femme d'affaires, leader d'opinion et conférencière avec plus de 20 ans d'expérience, la CSU de Chloé, sa contribution stratégique unique, consiste à créer une nouvelle génération de leaders inspirants et inspirés en ayant un impact positif sur la vie d'un million de leaders à travers ses webinaires, conférences, livres et podcasts. À travers ce podcast, Chloé et ses invités vous partageront leurs histoires de leadership, leurs défis, leurs réussites et leurs apprentissages. Les conversations mettront en évidence des conseils pratiques pour les leaders d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager vos réflexions sur cette série de podcasts sur nos pages LinkedIn ou Facebook. Bonne écoute!
Bienvenue à mon podcast Propulser votre équipe. La semaine passée, je m'entretenais avec Chantal Doré, vice-présidente principale TI, gestion de projet et administration du Fonds de solidarité. On a parlé, entre autres, de l'intelligence collective d'un comité de direction. Comment on fait pour avoir les vraies bonnes discussions pour nous permettre de prendre les décisions les plus stratégiques possibles comme équipe de direction et quel rôle chacun des membres peut jouer? À nouveau, je vous invite à l'écouter avec un crayon, un papier ou votre device pour pouvoir prendre des notes parce que vous allez avoir plein de trucs. Cette semaine aussi, plein de trucs de la part de Christine Maestracci, vice-présidente acquisition et distribution internationale de Québécois Contenu et présidente de Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Avec Christine, on a abordé plusieurs sujets, entre autres l'écoute à un niveau vraiment plus profond. C'est le défi qu'elle s'est donné d'écouter ces gens, de pouvoir créer des moments qu'elle appelle cadre de porte pour vraiment être à l'écoute des autres, de ses employés pour leur permettre de trouver leur propre solution parce qu'elle sait, elle dit que c'est la meilleure façon pour eux d'être engagés, d'être innovants aussi, ce dont tous avons besoin en ce moment. Donc, elle nous partage ses trucs sur la façon dont elle gère ses réunions, la façon dont elle écoute et la façon dont elle utilise le style de leadership participatif pour vraiment créer un climat d'équipe où tout le monde se sent engagé. Je vous invite à l'écouter avec grand plaisir. Comme moi, vous vous en tirerez plein de belles leçons. Bienvenue à ce podcast Propulser votre équipe. Je suis vraiment tellement excitée de t'avoir avec nous. Christine, une petite courte présentation. Christine est vice-présidente acquisition et distribution internationale de Québécois Contenu. Ça fait depuis 2003 que tu es chez Québécois. Tu avais plusieurs occupations, évidemment. Et là, en janvier, tu as été nommée vice-présidente acquisition et distribution internationale. Tu es avocate de formation et tu es présidente du conseil d'administration de l'organisme Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numérique, le FCTMN. Bienvenue à ce micro.
Merci, Chloé. Merci. Je suis très contente d'être là.
C'est excitant parce que, bon, évidemment, non. Toi et moi, on se connaît en dehors du contexte professionnel. Alors, il y a une complicité qui est là, puis c'est toujours agréable de pouvoir avoir une amie avec qui partager, puis de sonder tes idées. Moi, j'en connais quelques-unes, puis je me disais, je trouve que c'est tellement intéressant. Tu as une passion pour le leadership, pour la gestion d'équipe. Alors, je me suis dit, il faut absolument que les gens puissent entendre tes réflexions, tes trucs, tes défis aussi, parce que c'est aussi ça, ce micro-ci. Et le contexte actuel est particulier, la pandémie. Toi, tu es dans la culture. Comment on passe à travers une pandémie comme ça, dans ce contexte-ci, en culture?
Une journée à la fois, avec beaucoup de résilience. Avant de répondre à ta question, merci, tu as raison, je suis passionnée par tout ce qui touche le leadership, passionnée par le fait de grandir moi-même, d'évoluer. Je te dirais que comme avocate, je vais me permettre de dire que je partais peut-être d'un peu loin. On a une vision du leadership lorsqu'on est formé en droit qui était peut-être, parce que ça fait quand même un certain temps que j'ai mon titre d'avocate, une vision peut-être un petit peu unidirectionnelle. Et puis moi, le fait de pouvoir aller travailler dans les opérations, d'aller travailler dans des postes plus stratégiques que les postes que j'occupais en étant aux affaires juridiques ou simplement avocate, m'ont permis de me réaliser et de me découvrir, de découvrir qui j'étais, qui j'avais envie d'être aussi, puis comment je pouvais contribuer à plus une à quelque chose de plus grand que moi, qui est celui du projet d'entreprise dans lequel mon rôle s'inscrit, mais aussi moi en tant que gestionnaire d'équipe, ce que ça veut dire pour moi et pour les membres de mon équipe. En temps de pandémie, c'est certain que l'industrie du divertissement est une industrie qui, au départ, fait face à une concurrence accrue dans un contexte extrêmement complexe, très dynamique. Et la concurrence, on pense tout de suite quand on est dans l'audiovisuel aux grands OTT de ce monde, que ce soit les Netflix, les Amazon, qui s'installent partout, dans tous les territoires, et qui viennent complexifier un petit peu les rapports. Et on est passé, je dirais, avant même la pandémie, d'un contexte où on travaillait en concurrence avec les autres. Et maintenant, mais des fois, on est peut-être plus en coopération. Alors, on appelle ça de la coopétition présentement, parce que des fois, les gens avec qui on était d'emblée en concurrence, en compétition féroce, maintenant, ben, des fois, sur certaines choses, ça devient des partenaires. Peut-être pas toujours les Netflix, mais certainement différentes personnes au niveau local, au niveau national et même à l'étranger. Donc, mon travail consiste, entre autres, à identifier ces opportunités pour le groupe et être capable de créer des passerelles et de voir comment on peut collaborer tous ensemble pour faire face à une compétition qui s'est complexifiée et qui est dynamique, il faut le dire, qui est très dynamique.
C'est ça, les choses s'accélèrent. Ouais. Puis j'imagine que la pandémie, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, avec la pandémie, il y a eu une accélération de cette complexification-là. Donc, on ne réagit plus de la même façon. Ce qui était des compétiteurs sont peut-être maintenant, comme tu dis, des partenaires.
Mais c'était déjà le cas avant, je te dirais. Ouais. C'est ce que la pandémie a créé quand même avec l'arrêt des tournages, certaines inquiétudes, parce que tu le sais, au Québec, le cœur de l'écosystème, c'est vraiment toute la production originale qui est créée ici, avec tellement d'ailleurs de talent. Le talent d'ici est extraordinaire. Et moi, je suis très privilégiée de pouvoir le représenter un peu partout à travers le monde, à l'étranger, et d'être capable de vendre les séries qui sont produites ici par nos partenaires producteurs par les scénaristes d'ici, les auteurs, autrices. C'est vraiment magnifique et je suis vraiment très, très chanceuse de pouvoir le faire. Puis partout, la réponse à l'étranger est fabuleuse par rapport au contenu québécois. Il y a une réelle créativité qui est reconnue. Tu sais, autrefois, c'était plus, puis là, je parle vraiment de mon domaine un petit peu plus, vous m'en excuserez, mais tu disais, je suis passionnée par ça aussi. On entendait beaucoup les séries scandinaves, les séries israéliennes qui étaient à l'ordre du jour. Et là, c'est le point, on est rendu au point d'éclosion pour le Québec, pour faire en sorte qu'on devient, je dirais, le pays qui est regardé, le lieu qui est regardé pour la créativité au niveau audiovisuel. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est un bon moment.
Comment t'expliques ça? Je m'excuse, je t'interromps, mais comment t'expliques que le Québec a tellement cette saveur qui parle au reste du monde?
Mais je pense ce qu'on vit, c'est quand même relativement universel. Mmh. Ce qu'on transpose dans nos histoires, les trames narratives, les personnages, même si c'est local, ce sont des choses, des thèmes qui s'exportent très bien et qui se revivent ailleurs. Tu sais, je peux te parler de séries qui sont basées d'événements réels, qui ont été vécus ici par des gens d'ici. Et pourtant, ce sont des séries qui voyagent, qui bien sûr sont réadaptées après, avec les codes peut-être un petit peu plus locaux. Mais on n'a rien à enlever, je dirais, aux pays scandinaves, aux pays qui sont très forts aussi en fiction. Et on est les champions de la créativité au niveau des histoires, au niveau des personnages.
Avec une habitude aussi, peut-être, à moins que je me trompe, mais de travailler avec des budgets qui sont peut-être un peu plus... qui incitent à la créativité, dirons-nous.
Oui, tout à fait. Alors, je ne voulais pas le mentionner, mais c'est effectivement le cas. On a des budgets qui sont moindres, même si on se compare au Canada anglais, par exemple. Mm. Même pas dans les mêmes lignes que les États-Unis.
Je me rappelle d'un de tes courriels. On était probablement fin mars, donc tout de suite après l'éclosion de la nouvelle ou du lockdown, je devrais dire. Ouais. Puis tu m'as écrit, OK, comment je fais là pour gérer mon équipe à distance? Là, donne-moi tous tes trucs. Puis je sentais cette réelle pas préoccupation, mais ce réel souci de créer avec ton équipe une proximité, puis que tu n'allais pas te laisser arrêter par cette distance-là. Puis bon, je t'ai envoyé quelques trucs, mais tu étais déjà très, très en action là-dedans. Puis j'étais curieuse de voir, qu'est-ce qui a été le plus porteur pour toi à ce moment-là, puis comment tu as vu ça évoluer depuis les derniers mois dans ton équipe?
Je te dirais que le mot d'ordre pour moi, ça a été la flexibilité et puis la bienveillance. Alors, deux choses. D'une part, je pense qu'il fallait accepter la nouvelle réalité. Moi, j'ai une équipe qui voyage énormément de par ses fonctions. Donc, c'est plutôt rare que j'ai l'entièreté de mon équipe physiquement avec moi au bureau. Et puis souvent, bien, l'équipe est là au complet, mais c'est moi qui est à l'étranger. Donc, c'était une réalité pour nous qui existait. Passé les premiers temps où il a fallu très vite s'assurer que tout le monde avait tous les outils dont il avait besoin pour être capable de fonctionner de façon tout à fait autonome à la maison, comme si on recréait un petit peu notre univers de bureau. Donc, passé ce moment-là et passé, je dirais, les premiers émois de dire, est-ce que nos proches, les gens qu'on aime, vont bien, se portent bien? Est-ce qu'ils sont en danger, etc. Donc, il y avait tout ça, je dirais, le côté émotif, anxieux, fragile des gens qu'il fallait aussi considérer. Mais passé ce moment-là, on est arrivé assez vite dans un mode où on avait besoin d'établir une cascade d'informations parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient au niveau du travail, au niveau de notre management qui avait de l'information à descendre. Et puis nous, en même temps, bien, il y avait quand même beaucoup de choses qui bougeaient, donc il fallait être capable de remonter cette information-là. Donc, je dirais qu'au début, j'ai été très présente. J'ai voulu vraiment être là pour mon équipe. Donc, on se parlait deux fois par jour, le matin et le soir. Des fois, c'était juste pour faire un petit spot check. Tout le monde va bien dans votre écosystème, dans votre famille. On a fait ça pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on ait notre rythme de croisière. Et après, on est passé à quelque chose d'un petit peu moins journalier, un peu moins quotidien. Et on a évolué. 7 mois plus tard, je peux te dire qu'on n'est plus du tout dans la même mouvance. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon équipe, parce que des fois, on sent qu'on a étiré un petit peu, on est rendu au bout d'une énième rencontre. Et puis, après des longues journées où on passe notre vie sur Teams, sur Skype, sur Zoom, sur peu importe le système qu'on utilise, il y a un certain épuisement et une certaine fatigue qui s'installait. Donc, je ne voulais pas rajouter encore à ça. Donc, j'ai privilégié des appels. Maintenant, je suis beaucoup plus, 7 mois plus tard, là, après toute l'évolution qu'il y a eu, on est revenu à des rencontres bimensuelles d'équipe où on a choisi de se rebrancher sur ce qu'on aime faire, c'est-à-dire du contenu. Donc, on appelle ça contenu. Parlons de contenu. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a plu? Quelle série on devrait tous regarder? Quel film t'a touché? On est vraiment dans quelque chose qui nous passionne, dans de l'échange. On dirait que ça permet à tout le monde de focusser puis de canaliser. Puis après ça, tout le monde repart chacun dans leurs équipes. Il y a des meetings, par contre, hebdomadaires d'équipes qui se font où là, on est plus dans les objectifs, le focus sur les objectifs, où est-ce qu'on en est dans ce qui est mesurable et comment on est capable d'avancer malgré tous les défis que ça peut représenter. Mais moi, j'ai surtout commencé des meetings de cadre de porte. Alors, c'est pas des vraies rencontres, mais plusieurs fois par semaine, je me prévois des plages horaires où j'appelle les gens, je regarde qui est disponible, puis je leur passe un petit coup de fil. Et j'ai pas nécessairement quelque chose à leur demander, j'ai pas nécessairement un dossier à discuter avec eux. Je veux savoir comment ils vont. Prendre le temps de demander comment ça se passe, comment tu vas, est-ce que tu as tout ce dont tu as besoin, que ce soit en termes d'outils, de temps, de travail. Moi, comment je peux faire pour éliminer les obstacles que tu pourrais avoir pour atteindre tes objectifs puis te rendre où tu as besoin de te rendre dans un dossier avec quelqu'un, dans une rencontre. Donc, je le fais et je trouve que c'est très porteur. Jusqu'ici, la réponse a été fabuleuse. Et j'aime beaucoup ces moments-là, puis qu'on a appelé ça mes moments cadre de porte, parce que c'est quelque chose que je faisais beaucoup avec mon équipe lorsqu'on était sur place. De temps en temps, je passais la tête dans le cadre de porte pour savoir comment ça allait, tout simplement.
Ça ramène, j'imagine, un peu de spontanéité, un peu de naturel, un peu de vrai. Là, pas qu'on n'est pas vrai, mais on est tellement organisé, avec, comme tu le disais, avec les Zooms, on passe une journée complète en meeting, le fait de pouvoir s'arrêter, prendre un moment, puis juste parler sans objectif, sans attente, ça doit donner un peu d'oxygène, justement. Toi,
ça donne beaucoup d'oxygène, puis on est dans quelque chose de plus informel et ça demeure très important. Et je trouve que la pandémie, en fait, le défi au niveau de la pandémie d'être à distance, c'est qu'on perd un petit peu cette spontanéité. Ouais. Cette discussion autour de la machine à café ou la rencontre dans la cafétéria ou alors ces fameuses discussions de corridor ou de cadre de porte, je pense que c'est très apprécié. Ça demande du temps, ça demande un effort parce qu'on a quand même des choses à livrer, on est tous extrêmement occupés. Je pense qu'il faut prendre le temps de le faire. Pour moi, ça me donne l'impression d'être dans la bienveillance, dans le fond, vis-à-vis mon équipe. Je peux dire qu'ils répondent très, très, très bien à ça. Je pense qu'ils sont touchés d'abord qu'on le fasse. Puis sache aussi que l'équipe elle-même, moi, je leur ai demandé beaucoup. Je ne veux pas dicter les choses pour mon équipe. Je demande beaucoup à mon équipe de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils peuvent eux-mêmes, de quoi ils ont besoin. Parce que souvent, comme gestionnaire, on a tendance à présumer de ce dont une équipe peut avoir besoin comme moyen pour se mobiliser ou s'engager ou se regrouper. Et je leur ai demandé « qu'est-ce que vous aimeriez faire? » Et donc, il y en a une qui a dit « ben souvent, on se voyait le midi pour manger ensemble. » Donc, on a recréé un petit peu ces lunchs virtuels qui sont là quelques fois par semaine. Les gens, ils vont pas, un petit peu comme si on arrivait avec notre lunch puis on le faisait. Ça permet de parler de tout et de rien. Des fois, de régler des choses, par contre, qui sont très importantes dans notre écosystème. On fait aussi un 5 à 7 tous les jeudis soirs, chaque semaine. Pourquoi? Bien, parce que c'est important le plaisir quand on travaille ensemble. On n'est pas juste dans l'atteinte des objectifs, se surpasser, se dépasser, avoir un sentiment d'accomplissement, de réalisation. Il faut avoir du plaisir.
Sur une base régulière, hein, c'est ce que j'entends. Oui. Avec ce que tu amènes, c'est de recréer hebdomadairement des environnements où c'est agréable, où on peut se déposer, où oui, on est dans la performance, mais où... C'est pas que ça. Notre identité n'est pas que ça. Puis le rôle du gestionnaire à crise climat-là, ça me semble vraiment très important. Dans tes conversations de corridor et de cadre de porte, comme tu les appelles, je peux imaginer qu'une des choses sur lesquelles je sais que tu as travaillé dans les derniers temps, c'est l'écoute. J'imagine que tu mets ça à profit dans ces conversations-là, pas dans ces conversations-là, mais dans ces conversations-là, j'imagine.
Beaucoup. Oui, il faut vraiment, c'est une difficulté. Il ne faut pas penser, en faisant ces discussions de cadre de porte-là, tout de suite en termes de solutions, pour apporter des solutions. Je pense qu'il faut vraiment être présent, il faut écouter, il faut poser des questions. Et déposer son jugement ou réfréner son envie un petit peu irrésistible de dire « mais là, on va faire ci, on va gérer ça comme ça, on va l'organiser de telle façon » parce que ça vient vite, ça. On est habitué, on est des achievers, on veut régler les choses. Et puis, je fais exprès de prendre un recul et d'avoir une intention lorsque j'appelle ces gens-là par Teams ou que des fois je le fais au téléphone aussi parce qu'au téléphone on entend autre chose. La voix révèle énormément de choses au-delà de l'image. Et des fois je préfère prendre le téléphone pour simplement parler puis dire coucou. Et c'est important de ne pas avoir ce filtre-là, d'essayer de régler, de pas être tout de suite dans un mindset d'organisation, de solution. Au contraire, je pense que c'est l'occasion rêvée pour essayer de voir comment la personne elle-même peut trouver les propres solutions. Parce que souvent, les solutions, elles sont déjà là. Les membres de l'équipe la connaissent ou les connaissent. Et ils ont juste besoin eux-mêmes de les exprimer, de les prioriser, de placer les choses au bon endroit.
Pour ceux qui vont nous écouter, ils ne verront pas le sourire que j'ai en t'écoutant, mais ceux qui vont peut-être nous voir là, dans d'autres circonstances, j'ai un sourire qui va d'une oreille à l'autre parce que pour moi, c'est ça le travail que moi j'ai à faire comme coach, c'est d'aider justement les gestionnaires à ne pas se sentir obligés d'arriver avec toutes les solutions, puis plutôt de j'ai juste le terme en anglais, là, « ignite », d'insuffler ça au sein de leur équipe. C'est ce que j'entends beaucoup.
D'inspirer.
D'inspirer.
inspirer ça à l'équipe, je veux dire, qu'ils trouvent leur propre façon aussi de gérer certaines choses, des choses qui leur conviennent.
T'sais. Alors là, je veux décortiquer ça un petit peu avec
bien
toi.
Bien sûr,
tu en as parlé, tu as dit qu'il faut comme faire un petit stop. J'ai une intention, je veux comme qu'on le décortique un peu parce que je sais que c'est le défi, en tout cas, un des défis les plus importants des gestionnaires. C'est peut-être pas le défi, mais c'est un des défis les plus importants. Donc là, avant ton appel, tu fais quoi? Tu te mets-tu dans un contexte particulier? Est-ce que tu prends juste une seconde puis tu fais quoi?
D'abord, je vais faire une petite note parce que comme je suis à la maison, comme bien des gens en ce moment, on a trouvé une façon chez nous d'écrire un gros « no way ». Tu ne rentres pas dans ma chambre ou tu ne rentres pas dans la pièce dans laquelle je suis pendant un certain temps. Ça évite d'être dérangé, même si ça va durer 5-10 minutes, cet appel-là qui est si précieux. Ensuite, moi, je formule mon intention. Je me dis, OK, là, je veux vraiment écouter, être présente et puis aller là où la personne va m'amener, dans le respect complet de qui elle est et du moment où je la prends, parce qu'en même temps, peut-être que le timing ne sera pas idéal pour cette personne-là. Je ne sais pas ce qui m'attend. C'est un peu une surprise. Jusqu'ici, ça a tout le temps été des belles surprises, des belles découvertes. Parce que les gens finissent toujours par nous donner quelque chose, nous offrir quelque chose d'eux. Ils sont chez eux. Je rentre dans leur intimité. Dans le fond, c'est ça qu'on fait à chaque fois qu'on se parle. Et puis, il faut accepter, je pense, tout ce qui est un petit peu plus informel. Donc, on est dans le vrai. Tu le disais tout à l'heure, on est dans l'authentique. Et moi, j'ai besoin d'être vrai et authentique. Tout en étant optimiste. Parce que je pense que je ne peux pas arriver là non plus puis dire comment c'est terrible parce qu'il ne fait pas beau dehors puis que la lumière est en train de diminuer. La lumière quotidienne, on en a de moins en moins. Qu'il s'est passé telle chose dans ma vie. Je ne suis pas là pour comparer. Je ne suis pas là pour faire part de ce que moi, je vis. Je suis vraiment là pour écouter. Si on me pose des questions, je vais répondre. Mais je suis là pour leur permettre de se déposer, en fait. C'est comme ça que je l'aborde.
C'est tellement précieux pour les gens dans ton équipe, j'en suis convaincue, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se déposer, puis on a peut-être le sentiment qu'on doit performer aux yeux de notre boss. Hein, bon, on a besoin de performer, évidemment, alors d'avoir cette capacité à aussi exprimer puis chercher des solutions. Je suis sûre que ça vaut très cher pour les gens dans ton équipe, vraiment. Bravo.
Je pense que oui. Écoute, j'ai du bon feedback parce qu'en plus, moi, je demande du rétro-feedback. Je demande d'avoir un retour, pas immédiat, mais je trouve le moyen dans des conversations subséquentes d'aller revalider certaines choses ou certaines façons de fonctionner. Puis si le consensus fait en sorte que ça convient pas ou ça convient moins bien dans le contexte actuel, on change. L'outil que j'ai pour ça, c'est un petit sondage anonyme, en fait. Alors, au début, mon équipe était un petit peu réticente à ce sondage et puis je leur ai vraiment garanti que c'était tout à fait anonyme, que je ne voyais pas qui répondait. Quoi? Je savais qui avait répondu au sondage. Et puis, c'est vraiment des choses très simples sur dans quel état d'esprit ils sont à un moment donné. Est-ce que pour eux, la mission qu'on s'est donnée en équipe et puis les objectifs qu'ils ont à atteindre dans l'année sont clairs? Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir tous les outils dont ils ont besoin pour atteindre ces objectifs-là? Puis après ça, je décortique, on va un petit peu plus loin. Là, c'est 5-6 questions, là, c'est pas 30 questions. Mais d'aller voir, mais qu'est-ce qu'ils auraient besoin présentement de la part de leur palier de direct report, donc leur directeur ou leur directrice? Et puis, qu'est-ce qu'ils auraient besoin de leur vice-présidence aussi?
Ça te permet d'être agile, là, vraiment. Tu adaptes tout de suite, là, en temps réel. Oui. Là, basé
sur... Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut agir après. Mmh. C'est-à-dire que c'est un bel outil de faire ce sondage-là de façon anonyme, de regarder ce qui sort de ça. Puis je dirais que je suis plutôt très, très heureuse de ce qu'ils ressentent. Ça permet aux gens de dire certaines choses. Mais après, il faut en faire quelque chose. On ne fait pas des sondages juste pour faire des sondages ou aller tester. C'est peut-être aussi regarder avec une équipe. On a fait des exercices comme ça. On a dit, c'est quoi vos irritants? Si j'avais là, des irritants, nommez-moi-en 3 irritants qui devraient disparaître pour vous aider à mieux faire votre travail, à être encore plus, pas nécessairement performant, mais avoir l'impression d'avoir plus d'impact.
D'avancer, oui.
D'avancer encore plus. Mais la recette derrière ça, ce qui est gagnant, c'est qu'il faut livrer derrière. Donc, il faut être capable. Alors, tout n'est pas nécessairement faisable. Des fois, on nous demande des choses où c'est pas nécessairement quelque chose sur quoi on est capable d'agir. Mais il y a plein de petites choses qui sont des irritants dont on n'a pas conscience quand on est gestionnaire d'une équipe. Et c'est très facile de les mettre de côté, d'enlever ces fameux obstacles à l'atteinte des objectifs.
Et ça, c'est toute la différence.
L'équipe le voit, ça fait toute la différence peut-être dans leur quotidien ou dans leur semaine. Et c'est très, très important. C'est puissant, ça, pour propulser une équipe.
Tu es une femme leader, mais tu es aussi une présidente de conseil d'administration pour des femmes, pour les femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ce groupe fabuleux de femmes en juin 2019. Un de vos objectifs, c'est de ne plus exister en 2030.
C'est une mission qui peut sembler un peu paradoxale. Hein? Donc, merci à Chloé de parler de ce regroupement qui me tient beaucoup à cœur. Donc, Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques, c'est un regroupement qui sert principalement à poser toutes les actions et proposer des activités pour faire en sorte que les femmes demeurent pertinentes sur le marché du travail et qu'elles atteignent leur plein potentiel, en fond. Évidemment, tout ça s'ancre dans le contexte de la parité. Et le but du FCTMN, c'est de favoriser le rayonnement, la formation et le développement des femmes. Je devrais dire le développement, la formation, le réseautage et le rayonnement du talent féminin. J'ai le privilège, encore une fois, d'être la présidente du conseil d'administration, d'un conseil d'administration qui est très, très dynamique et de femmes très inspirantes et très inspirées aussi par le fait que la parité doit se concrétiser de plein de façons différentes. Alors, c'est sûr que les institutions ont quand même pris une grande part, je dirais, d'avance par rapport à ça en se fixant des objectifs. Maintenant, le privé a suivi, a emboîté le pas. Et on sent qu'il y a vraiment un changement juste dans les conversations, dans la prise de conscience. Et la même chose est en train aussi de se passer au niveau de la diversité et de l'inclusion. Et c'est extrêmement important d'avoir ces conversations-là. Donc, oui, une mission un petit peu paradoxale parce que c'est important et ultimement, on voudrait ne plus exister parce qu'on voudrait que la parité, que ce soit pour les femmes, l'inclusion des diversités, ce soit plus nécessaire, que ce soit, ça fasse partie des acquis. Mais on va célébrer notre 30e anniversaire à partir du mois de février 2021.
C'est incroyable.
Une grosse année devant nous.
Félicitations, bon anniversaire.
Ans, ouais.
Comment tu, comme femme, leader, là, si tu avais à donner un truc, des trucs pour les femmes, pour exprimer leur plein potentiel? C'est une vague question, je le sais, mais tu sais, un aspect qui, pour toi, a fait la différence dans ton leadership en tant que femme, ça serait quoi?
Je pense que c'est l'authenticité. Mais est-ce que c'est vraiment juste féminin?
C'est ça, hein?
En tant que femme, je pense que malheureusement, on est encore dans un environnement où on associe de façon inversement proportionnelle le succès et l'amabilité. On a l'impression que pour avoir du succès, on ne peut pas être aimable nécessairement, ou on ne peut pas être aimé, et qu'il faut être un peu désagréable. Et ça, je pense que c'est un des mythes qu'il faut déboulonner, parce que moi, des femmes, et même des hommes, là on est juste dans le leadership féminin, le succès ne va pas nécessairement de pair avec le fait d'être désagréable. Au contraire, je connais des gens qui sont très inspirants, qui sont d'une élégance et d'une gentillesse, qui au contraire sont pour moi, ce sont des gens qui ont allumé des choses pour moi, qui ont montré le chemin. Donc,
Puis en même temps, certaines diraient qu'elles se limitent dans l'expression de leur dynamisme ou de leur tempérament un peu plus décidé parce qu'on reproche aux femmes d'être agressives si elles expriment un peu trop leur opinion.
Oui, effectivement, on s'auto-censure, je pense que c'est un petit peu ça, là. On s'auto-freine. Mm. C'est un bon point ce que tu amènes, Chloé. effectivement, on a tendance à ne pas vouloir en faire trop. On a tendance à ne pas vouloir être affublé de cette épithète du trop.
Comment on fait pour transcender ça? Je ne dis pas qu'on l'a fait, hein? Puis qu'une fois qu'on a transcendé ça dans une situation, on l'a fait dans toutes les situations, mais comment on fait pour développer ce muscle-là où on transcende cette limite-là qu'on se met soi-même?
Hein? Tu as raison, c'est quelque chose qui est en constante évolution, c'est pas figé du tout. Je pense qu'il faut le décider au départ. Hein? Ça prend un premier rappel pour se dire, ben là, ça suffit. Je pense qu'il faut arriver à travailler avec sa petite voix qui revient de temps en temps. C'est un petit peu fatigante où on lui dit, mais non, ça va bien, je vais bien, je peux faire telle chose, je me le permets. Moi, ce qui a été très puissant pour moi, ça a été justement de me donner cette permission, quitte à l'écrire. Des fois, j'ai besoin de certaines choses et je m'écris, je me donne cette permission-là aujourd'hui de faire telle chose, de dire telle chose, d'aller au bout de qui je suis et de ne pas mettre de filtre et honnêtement, de ne pas d'avance présumer que les gens vont porter un jugement par rapport à ça. Parce que souvent, on pense qu'il y en aura un, mais il n'y en a pas. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, pas ce que je dis. Mais souvent, nous-mêmes, on se juge d'emblée ou d'avance et on présume de comment les gens vont recevoir une attitude, un propos, une recommandation qu'on va amener, une stratégie qu'on va proposer, alors que ce n'est pas nécessairement le cas.
On se crée des scénarios, on anticipe des fois.
On se raconte des histoires. Oui, c'est très fort, ça, les petites histoires qu'on se raconte. Mmh. Certains appelleraient ça les disques qu'on se repasse tout le temps. Donc, oui.
Moi, j'appelle ça des pensées qui louent notre cerveau puis notre espace mental pour pas assez cher. On charge pas assez cher pour que ces pensées-là existent dans notre cerveau, alors faut les faire partir. Christine, on approche de la fin de notre conversation. C'est passionnant. J'adore ça. Merci vraiment encore là, de ta générosité, de ton temps. C'est le temps de nos questions à une minute.
Déjà,
ça va vite, hein?
Mais j'aurais plein d'autres choses à dire, mais c'est...
Bon, ben là, c'est ta chance. Dans les questions à une minute, s'il y a des choses que tu n'as pas dites, là, vas-y. Non, y a-t-il une question que je t'ai pas posée à laquelle que tu aurais aimé que je te pose, ouais?
Non, je pense qu'on a fait le tour.
Super. Quelle est ta CSU, Christine? Ta contribution stratégique unique?
Ma contribution stratégique unique? C'est très personnel, ça. Moi, ma contribution stratégique unique, elle est faite en fonction ma volonté de gestion. Donc, pas juste ma portée au niveau de mon leadership, d'impact, d'influence qu'il peut y avoir avec d'autres, avec mes pairs ou avec ma hiérarchie. Elle est beaucoup plus faite en fonction de mon équipe. Et tout à l'heure, je parlais de bienveillance et pour moi, elle est là-dedans. Alors, ma CSU, en grande primeur, c'est de donner des racines pour pouvoir donner des ailes. Ça sonne un petit peu comme une carte de souhait. Et j'ai quand même, après avoir travaillé sur cette CSU-là, en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était pas des personnes différentes dans notre quotidien ou avec notre famille de celles qu'on était au bureau. On ne peut pas avoir des personnalités ou des valeurs qui sont différentes parce qu'on serait un petit peu en dissonance. Et donc, le fait d'être capable de dire, bien, dans le fond, moi, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire autour de moi, dans mes amitiés, dans les relations que j'ai avec les gens. Et je me suis rendu compte que ça résonnait quand je ramenais ma CSU à cette expression, qui est une expression qui existe. C'est un proverbe apparemment qu'on utilise pour les enfants. Je ne vois pas du tout mon équipe comme des enfants et je ne suis pas leur mère. Par contre, je suis certainement dans un leadership de service. Pour moi, c'est moi qui est au service de mon équipe. C'est moi qui travaille pour eux et pas l'inverse.
C'est quoi ton conseil pour responsabiliser ton équipe ou une équipe que tu donnerais à un leader là-dessus?
Pour responsabiliser l'équipe. Je ne suis pas certaine que je comprends ta question.
Je pense que un des éléments de réponse réside dans ce que tu viens de dire, mais on voit beaucoup de leaders qui sont des performants. Tu en as parlé tantôt, on est des achievers. Ce faisant, on prend beaucoup de responsabilités, puis on ne laisse peut-être pas tout le temps la place à nos équipes pour qu'elles prennent les responsabilités qui lui reviennent? Comment on fait pour les responsabiliser, leur donner cet espace-là?
Moi, je pense qu'il faut les amener à s'élever. Il faut les amener constamment à élever leur game, toujours voir plus large. Enfin, je n'aime pas utiliser le mot game, mais je pense que ça exprime ce que ça a exprimé. C'est important de comprendre l'environnement dans lequel on œuvre, dans la ligne d'affaires dans laquelle on se trouve. C'est important aussi de comprendre qu'est-ce qui est en place, les forces qui sont en place, et puis d'identifier son rôle là-dedans. Comment on contribue à ça? Comment on a de l'impact à ce niveau-là? Et ça permet de s'élever. Ça permet d'être beaucoup plus stratégique dans tout ce qu'on fait.
Puis tu viens de répondre à ma troisième question qui était comment on fait pour élever son jeu? Si ça va résumer le leadership en trois mots.
En trois mots, ce serait le fait d'être connecté, donc la connexion. Connecté, ça veut dire connecté sur soi-même, savoir qui on est. Connaître un petit peu ce que moi j'appelle mes angles morts. Donc, certains appelleraient ça des mind traps. Donc, être connecté sur soi, être connecté sur les autres aussi. On parlait d'écoute tout à l'heure. Pour moi, ça, c'est primordial. J'ai exprimé le souhait cette année d'écouter plus, mais surtout d'écouter mieux. C'était vraiment un des objectifs que je me suis fixé. Le fait aussi d'être commis, engagé. Il faut être entièrement, passionnément impliqué dans ce qu'on fait. Parce que c'est là-dedans souvent qu'on trouve du plaisir dans ce qu'on fait, puis que ça résonne, que ça nous fait vibrer, que ça nous inspire, puis que ça inspire les autres aussi. Et puis finalement, je dirais le courage. Le courage d'être soi, le courage de se déposer. Alors, tu auras compris qu'en anglais, ça donne 3 C, alors qui n'est pas très loin de tes 5 C dans ton livre, qui est un livre fabuleux d'ailleurs. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, très, très pratique, très concret. Donc, bravo encore, tout simplement.
Merci. Alors, j'ai adoré connecter avec toi, Christine. Merci.
Pareillement. On a déjà cette connexion-là, c'est vraiment fabuleux.
Très fabuleux. Très, très heureuse de te voir évoluer aussi comme leader, puis le plaisir que tu prends à être cette leader, justement, c'est très, très beau à voir.
C'est un, je le disais tout à l'heure, ça demande du temps, ça demande des efforts, mais c'est extrêmement gratifiant, pas juste sur le plan professionnel, mais sur le plan humain aussi. On a l'impression qu'on donne beaucoup, mais on reçoit tellement aussi. Et on apprend énormément, puis moi, pour moi, c'est important d'apprendre. Apprendre sur les autres, d'apprendre sur moi-même.
Et tu as permis aux gens qui nous écoutent d'apprendre, j'en ai aucun doute.
Je le souhaite, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté ce podcast Propulser votre équipe. Nous espérons que vous l'avez apprécié et que vous pourrez mettre en pratique les outils et les idées partagées. Pour plus de contenu gratuit, d'événements et d'outils de développement, visitez notre site web au propulsezvotreéquipe.com ou sur nos pages LinkedIn ou Facebook. Et assurez-vous de vous inscrire à notre infolettre pour continuer à recevoir du contenu et des informations Propulser votre équipe.